Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question, au micro Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Et nous abordons aujourd'hui notre dernière émission consacrée au livre du prophète Jérémie. Nous étions arrêtés lors de la dernière émission à la fin du chapitre 39 qui était la conclusion dramatique de la mission du prophète. Toutes ces interventions auprès du roi Sédécias, dernier roi de Juda, ont été vaines. Car malgré quelques hésitations, ce roi a pris les décisions contraires à la volonté de Dieu, exprimée par Jérémie, et les conséquences inévitables ne se sont pas faites attendre. Nabucodonosor, roi de Babylone, a envahi Jérusalem, maisons et palais furent brûlés et les murailles de la ville furent détruites. Les habitants sont égorgés ou bien déportés à Babylone, comme par exemple le roi lui-même. Il ne resta au pays que les plus pauvres, auxquels le pouvoir babylonien distribua les terres pour les cultiver. Donc le petit peuple va pouvoir bénéficier de la situation et c'est un peu leur revanche finalement. Il y a au moins une petite chose de bonne qui est sortie de tout le carnage. Et Jérémie, reconnu comme bon collaborateur de l'occupant, fut aussi préservé. Chapitre 39, verset 11, qui dit « Au sujet de Jérémie, Nabucodonosor, roi de Babylone, avait donné ses ordres à Nabuzardan, commandant de la garde, en lui disant « Prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais traite-le comme il te demandera. » Et un peu plus loin, ils envoyèrent prendre Jérémie dans la cour de garde et le confièrent à Godolias, fils d'Aïkam, fils de Shaphan, pour le conduire chez lui, et il demeura au milieu du peuple. Voilà, il semble que enfin le prophète pourrait vivre tranquillement.
Ah non, mais ce ne sera pas le cas, malheureusement. Donc, il est reconnu par Godolias, fils d'Aïkam, fils de Shaphan, nous dit le texte. Or, rappelons-nous qu'au chapitre 26, verset 24, nous avions déjà entendu parler d'Aïkam, fils de Shaphan, qui était un notable, protecteur de Jérémie, et dont il avait empêché la mise à mort. Les relations donc de Jérémie avec cette famille de Shaphan remontent encore plus loin sans doute, puisque Shaphan était le secrétaire du roi Josias, que Jérémie a commencé, donc c'est au moment où Jérémie a commencé son ministère. De même donc au chapitre 29, verset 3, nous avions vu qu'un autre fils de Shaphan, Éléazar, ambassadeur de Jérusalem auprès de Nabucodonosor, avait porté à Babylone une lettre que Jérémie avait adressée au premier déporté. Donc la famille de Shaphan est donc intimement liée à Jérémie et donc en bon terme avec Babylone. C'est donc tout naturellement que Godolias, fils d'Aïkam et petit-fils de Shaphan, est nommé comme gouverneur de Juda par le pouvoir babylonien et que Jérémie va s'installer chez lui. Ils sont du même bord, spirituellement parlant, puisqu'ils obéissent à la parole de Dieu, mais aussi du même groupe politique, partisan et de la collaboration avec Babylone. Voilà, mais l'humanité est ce qu'elle est, donc toujours divisée et conflictuelle. Donc la nomination de Godolias comme gouverneur de Juda va évidemment susciter une scission, deux parties. D'une part, ceux qui vont l'accepter et en profiter pour vivre en paix, et d'autre part, ceux qui choisissent révolte et résistance.
Et voilà, commençons par lire quelques versets qui décrivent la vie du côté des pro-babyloniens. Chapitre 40, versets 9 à 12. Godolias leur dit: n'ayez pas peur de servir les Chaldéens. Demeurez dans le pays. Servez le roi de Babylone et tout ira bien pour vous. Quant à moi, je vais demeurer à Mizpa pour me tenir à la disposition des Chaldéens qui viennent chez nous. Mais vous, faites la récolte du vin, des fruits et de l'huile. Emplissez vos jarres et demeurez dans les villes que vous occupez. Et tous les Judéens qui se trouvaient en Moab, chez les fils d'Ammon, en Édom et dans tout autre pays, apprirent aussi que le roi de Babylone avait laissé subsister un reste en Juda et qu'il avait établi gouverneur Godolias. Tous les Judéens revinrent donc de leur lieu où ils avaient été chassés et ils se rendirent au pays de Juda auprès de Godolias à Mizpa. Et ils firent une très abondante récolte de vin et de fruits. Alors cette abondante récolte, c'est pour le peuple, c'est comme une preuve de la bénédiction de Dieu, parce qu'ils avaient fait confiance à sa parole et à l'occupant babylonien. Mais pendant ce temps-là, évidemment, sens contraire, un attentat se prépare pour tuer Godolias. On vient le prévenir pour qu'il se protège, mais Godolias ne croit pas au danger et ne tient pas compte de l'avertissement. Donc, ça finit mal, il va vraiment se faire assassiner. Et avec lui, toutes sortes de judéens, enfin tout ce qui est présent autour de lui, et même un groupe de pèlerins venus à Jérusalem qui passaient par là, nous dit le texte. Donc, un nouveau carnage, dont le responsable est un certain Ismaël, de sang royal, nous dit le texte, il est entouré de militaires de haut rang. Donc on devine un peu le profil politique de cette élite militaire et aristocratique, à qui l'idée d'une collaboration avec l'envahisseur est insupportable.
Oui, mais ce qui paraît ici être un choix pas très pertinent, pourquoi choisir de tuer et de risquer sa propre vie pour une question d'honneur, hein, finalement.
Oui, mais c'est ça qui est important pour l'honneur. Eux,
oui. Puisque l'occupation est pacifique, hein, et que le peuple peut subsister agréablement, pourquoi ne pas simplement choisir la vie? Car c'est bien là le message qui est venu apporter Jérémie de la part de Dieu. Choisissez de vivre en supportant la domination de Babylone. Sinon, vous serez tous mis à mort par un peuple beaucoup plus fort que vous. Mais il y a beaucoup d'orgueil mal placé dans tous ces massacres et on préfère croire qu'on est capable de vaincre l'adversaire. On a confiance en soi et on va au combat, sans tenir compte des réalités. Et ici, la réalité, c'est que pour le moment, Dieu se trouve aux côtés de Babylone. Rappelons-nous que dans les oracles, Dieu parle de Nabuchodonosor en disant « mon serviteur ». C'est ça le message de Jérémie, mais c'est aussi pour cela qu'il sera persécuté. Et là où nous sommes dans le texte, donc au chapitre 41, le chef de la résistance, Ismaël, fait jeter dans la citerne tous les corps de ceux qu'il a tués, puis il va faire prisonnier tous ceux de l'entourage de Godolias qui ont survécu. Et Jérémie fait partie de cela. Bien évidemment, le conflit ne s'arrête pas là. En face, du côté des partisans de Babylone, la réaction s'organise et l'affrontement se prépare. Mais alors, paradoxalement, Ismaël se rend enfin compte de son impuissance et il s'enfuit. Alors, sous la direction d'un certain Yohanan, ce qui reste du peuple va s'unir et se réorganiser.
Et la première chose qu'ils vont faire, ça c'est incroyable, c'est d'aller demander conseil à Jérémie parce qu'ils ont peur de Babylone à cause du meurtre du gouverneur qu'ils ont mis en place. Donc nous sommes maintenant au chapitre 42, et je vous lis le début, verset 2-3. « Ils s'avancèrent et dirent au prophète Jérémie, « Laisse-toi toucher par notre supplication. Intercède pour nous auprès du Seigneur, ton Dieu. » Pour tout ce reste donc ils sont, car nous restons peu du grand nombre que nous étions, comme tu le vois de tes yeux. Que le Seigneur ton Dieu, donc ton Dieu, nous indique la route que nous devons suivre et ce que nous devons faire. Voilà, avec ce texte, nous voyons dire que ça se présente mal, parce qu'ils disent à Jérémie, le Seigneur ton Dieu, comme si eux n'avaient rien à voir avec ce Dieu-là. La réponse de Jérémie vient, heureusement, remettre les choses au point. Le prophète Jérémie leur dit, c'est entendu, selon votre demande, je vais intercéder auprès du Seigneur votre Dieu. Et pourtant, bien que le peuple promet d'obéir, c'est la réponse à leur prière qui viendra 10 jours plus tard et elle sera très mal reçue. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous lisons à présent au chapitre 42 les paroles que le prophète Jérémie adresse de la part de Dieu au reste du peuple judéen qui craint les représailles de Babylone après le meurtre du gouverneur Godolias. Je vous lis quelques versets. « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, auprès de qui vous m'avez envoyé pour qu'il se laisse toucher par votre supplication. Si vous revenez habiter dans ce pays, je vous bâtirai, je ne démolirai pas. Je vous planterai, je n'arracherai pas. Car je me repens du mal que je vous ai fait. N'ayez pas peur du roi de Babylone, oracle du Seigneur, car je suis avec vous pour vous protéger, vous sauver, vous délivrer de sa main. Je vous ferai prendre en compassion. Voilà, donc si j'ose dire, Dieu persiste et signe. N'ayez pas peur du roi de Babylone, revenez sur votre terre. Mais il y a aussi la menace en cas de refus. Je vous lis un petit extrait. « Si vous dites « Nous n'habiterons plus dans ce pays », refusant ainsi d'écouter la voix du Seigneur votre Dieu, si vous dites « Non, c'est au pays d'Égypte que nous irons pour ne plus voir la guerre, ni souffrir de la faim, c'est là que nous habiterons », si vous persistez à tourner votre visage vers l'Égypte, si vous séjournez là-bas, l'épée dont vous avez peur, c'est là qu'elle vous atteindra. Et tous les hommes qui auront tourné leur visage vers l'Égypte mourront par l'épée, la famine et la peste. Eh bien, croyez-vous qu'il se passa on refusa à nouveau d'entendre ce que dit le prophète Jérémie. Ainsi, verset 2 du chapitre 43, « Tous ces gens, pleins d'arrogance, répondirent à Jérémie, « C'est un mensonge que tu nous dis !»
Oui, et ce qui est d'autant plus absurde, c'est qu'ils étaient venus d'eux-mêmes pour demander l'intercession de Jérémie. Et on a là un exemple type des difficultés qu'ont toujours rencontrées les prophètes dans leur histoire du peuple hébreu. Ce que disent les prophètes n'est entendu qu'à condition que cela aille dans le sens de ce que le peuple désire entendre. Bon, comme beaucoup de gens.
Et comme aujourd'hui, oui.
Ce qui est malheureusement rarement le cas, car le rôle du prophète, justement, est d'avertir quand quelque chose ne va pas, quand l'alliance avec Dieu est en danger parce que la loi est négligée ou trahie. Rappelons-nous que la tradition chrétienne a vu en Jérémie bien des similitudes avec Jésus, et c'est parce que la vérité de leur enseignement est trop contrariante qu'on préfère les mettre à mort, plutôt que d'accepter soi-même de changer. C'est le drame du prophétisme en général, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, même si ce genre de prophétisme n'existe plus. Il y a bien des manières d'avertir le monde de nos jours, de tirer des signaux d'alarme, d'appeler à agir raisonnablement, de faire prendre conscience des réalités qui dérangent. C'est le cas en politique, par exemple, pour des problèmes économiques, pour l'urgence devant le réchauffement climatique, pour des dangers de pesticides, du nucléaire, etc. Mais l'humanité est très difficile à réformer, de façon générale. Chacun veut le mieux pour lui-même, mais sans tenir compte de la globalité d'une situation et d'une réalité du monde. C'est donc ainsi que le groupe des opposants à Babylone va décider de quitter Jérusalem et le pays de Juda pour aller se réfugier en Égypte, à Papanès. Ils vont droit à la catastrophe, mais comble de tout, ils emmènent Jérémie de force avec eux.
Ah oui, c'est ça qui est scandaleux, parce que le malheur aura poursuivi Jérémie jusqu'au bout. Nous sommes donc au chapitre 43 du livre, et Jérémie part en Égypte, où il aura quand même encore du travail à fournir pour Dieu. Voici la fin du chapitre 43. Or, à Tapanès, la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. De tes mains, prends de grosses pierres, et aux yeux des Judéens, enfouis-les dans l'argile, près du four à briques, à l'entrée de la maison de Pharaon, à Tapanès. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Voici que j'envoie chercher mon serviteur, Nabuchodonosor, roi de Babylone. Je placerai son trône sur les pierres que j'ai enfouies, et il étendra son baldaquin au-dessus d'elle. Il viendra et frappera le pays d'Égypte, qui est pour la mort, qu'il aille à la mort, etc. Je mettrai le feu aux maisons des dieux de l'Égypte. Nabuchodonosor les brûlera, il emmènera les dieux en captivité. Je passe quelques mots. Il brisera les stèles de Beth-Shemesh, au pays d'Égypte, il incendiera les maisons des dieux de l'Égypte. Voilà, je fais remarquer que Dieu a encore dit ici « mon serviteur Nabuchodonosor ». Donc, ça confirme que Jérémie veut parler d'un dieu, d'ailleurs il le dit, le Seigneur de l'univers. Le Dieu d'Israël est le Seigneur universel, et aucun des peuples de la terre ne lui est étranger, y compris pour ce qui concerne les guerres. Même si cela nous choque, nous devons bien réfléchir à cette présence de Dieu qui accompagne tout ce qui se passe sur la terre.
Oui, et ce qui dépasse un peu notre horizon, c'est que la guerre est surtout montrée comme un combat à mort contre les autres dieux, hein, les dieux de l'Égypte. Quand ici le texte évoque Ben Sheben, il s'agit en fait du temple du dieu Ra, le dieu soleil, le plus important du panthéon égyptien. Et pourtant, l'histoire du monde, depuis 2000 ans, hein, a bien montré que l'on n'adore plus le soleil. Plus personne ne croit qu'il est le dieu suprême, bien qu'on n'ignore pas l'importance hein, qu'il a pour la vie sur notre planète. Par contre, le dieu d'Israël continue de faire vivre les trois grandes religions monothéistes d'aujourd'hui. Et c'est peut-être même le dieu qui habite le cœur de ceux qui se disent athées, hein, le dieu inconnu des philosophes, comme disait saint Paul. Donc Jérémie disait vrai quand il annonçait l'effondrement des dieux d'Égypte, et il disait vrai en ce qui concerne la victoire de Babylone dans sa guerre contre l'Égypte. Bref, Jérémie avait raison. Et cela continue encore hein, au chapitre 44 du livre, où Dieu va donner des explications au malheur qui va s'abattre sur les Judéens. Je vous lis les versets 3 à 5. « C'est à cause du mal qu'ils ont fait pour m'offenser, en allant encenser et servir d'autres dieux qui leur étaient inconnus, comme à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes, pour dire « Ne faites donc pas cette chose abominable que je déteste. » Mais ils n'ont pas écouté ni prêté l'oreille pour se détourner de leur mal et cesser de brûler de l'encens à d'autres dieux. »
Voilà, donc toujours idolâtrie, la sentence tombe encore une fois. Verset 12 et suivant, « Je vais prendre le reste de Juda. Ceux qui ont tourné leur visage vers l'Égypte, ils périront tous. » etc. Ils tomberont par l'épée, la famine, du petit jusqu'au plus grand. Il n'y aura ni rescapés, ni survivants parmi le reste de Juda, ceux qui sont venus séjourner en Égypte. Quant au pays de Juda où ils désirent revenir, ils n'y reviendront pas, sauf quelques rescapés. C'est ça qui est comique, si je peux dire. Nous retrouvons là un schéma récurrent dans toute la Bible, la colère de Dieu. Terrible colère qui décide d'éliminer tout le monde à cause du mal qui est commis. Dieu catégorique, acharné, tout le monde va mourir. Définitivement, c'est décidé. Tout le monde, sauf quelques rescapés. Donc, c'est finalement la miséricorde de Dieu qui a toujours le dernier mot, même dans les circonstances les plus dramatiques. Ça a déjà commencé avec Noé, souvenez-vous, il voulait détruire tout le monde, et ça revient tout au long des guerres d'Israël. Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. Il y a toujours un reste, et parfois un reste du reste, qui permet un renouveau, une réconciliation qui est possible avec Dieu. Voilà qui doit nous réconforter aussi pour notre propre vie, pour Dieu. Il y a toujours quelque chose à sauver, même quand tout semble perdu. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question. Nous sommes arrivés au chapitre 44 du livre du prophète Jérémie. Dieu vient de déclarer à tous ceux qui se sont opposés à sa volonté que leur destin est décidé. Tout le monde en Égypte va mourir par la main des Babyloniens. Tous les Judéens périront, sauf quelques rescapés. Heureusement, parce que c'est comme cela qu'on a eu des informations sur ce qui s'est passé. C'est eux qui sont venus nous raconter. Entre autres, ils ont raconté ce que Jérémie avait fait. Je vous lis versets 15 à 18. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes brûlaient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes présentes, donc une grande assemblée, dirent à Jérémie cette réponse. « Pour ce qui est de la parole que tu nous as dite au nom du Seigneur, nous ne t'écouterons pas. Mais nous voulons agir selon toute la parole qui est sortie de notre bouche. » Brûler de l'encens à la reine du ciel et lui verser des libations, comme nous le faisions dans les villes de Juda, les rues de Jérusalem. Car alors, rassasiés de pain, nous étions heureux, et nous ne connaissions pas le malheur. Depuis que nous avons cessé de brûler de l'encens à la reine du ciel et de lui verser des libations, nous manquons de tout, et nous périssons par l'épée et la famine. Donc le peuple de Juda a une interprétation très personnelle hein, des événements.
Oui, et puis ce qui est amusant quand même, ou curieux, c'est l'accent mis sur les femmes qui vénèrent la règle du, la reine du ciel. Il s'agit sans doute du culte de la déesse Ishtar, la déesse assyro-babylonienne, dont on sait qu'elle était souvent associée au culte du dieu d'Israël, et cela le mettait d'ailleurs en grande colère. Mais il faut bien reconnaître que le dieu d'Israël pouvait sembler un peu abstrait, hein, et pas vraiment féminin. C'est pourquoi probablement ce culte parallèle de la reine du ciel s'est développé avec succès, surtout à cause des femmes. Mais pas seulement, si on en croit le verset 19, je vous le lis. « Les femmes ajoutèrent, lorsque nous brûlons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui versons des libations, est-ce à l'insu de nos maris que nous lui faisons ces gâteaux qui, lui représentent et, qui la représentent et lui offrons des libations ?» Donc on peut en déduire que les hommes consentaient tout cela. C'est comme si le peuple avait besoin de vénérer un aspect féminin de Dieu, parce que cela rassure, parce que bon, le féminin semble plus près de la vie quotidienne. C'est certainement un besoin humain très profond en tout cas, puisque dans le christianisme, on a aussi développé donc, le culte à Marie, hein, reine du ciel, qui prend parfois des aspects excessifs, à la limite de l'idolâtrie. Plusieurs papes nous ont d'ailleurs mis en garde contre les excès de piété trop sentimentale qui frôlent parfois la superstition. Mais le problème est quand même très différent en Égypte, car visiblement les Judéens finissent par préférer la reine du ciel et renient la parole de Dieu d'Israël.
Et oui, Jérémie ajoute encore des paroles de Dieu pas contents. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous qui habitez là en Égypte, qui disent par tout le pays d'Égypte, « Vive le Seigneur mon Dieu, je veille sur eux pour le malheur et non pour le bonheur. Ils périront, tous les hommes de Juda qui sont au pays d'Égypte, jusqu'à leur anéantissement. Mais quelques-uns, peu nombreux, échappant à l'épée, s'en retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Alors, tout le reste de Juda, ceux-là sauront quelle parole se réalise, la mienne ou la leur ?» Ah, c'est la question. Qui a raison ? Or, la parole de Dieu est la seule vérité. Tout le reste n'est qu'illusion. Et la vérité, c'est que l'Égypte va perdre la guerre contre Babylone et qu'elle ne s'en relèvera jamais complètement. C'en est fini de la splendeur des pharaons. Mais hélas, c'en est aussi fini de Jérémie, dont on perd la trace, cette fois définitivement. Il est certainement mort pendant les combats, mais nous n'en saurons jamais rien. En tout cas, triste fin pour ce prophète dont toute la vie a été jalonnée de souffrances et qui a dû défendre une position pro-babylonienne contre tous les préjugés des dirigeants de Juda. Lui qui a toujours refusé l'alliance avec l'Égypte et combattu leurs partisans, il a été exilé malgré lui en Égypte et finit sa vie en déraciné. Alors souvenons-nous qu'il était tellement attaché à son petit village d'Anatote. Oui.
Voilà, bon, donc nous avons fini maintenant l'histoire de Jérémie. Mais nous devons à présent nous poser les questions de ce que nous pouvons retenir de cette longue lecture. Car ce fut une lecture difficile quand même à cause de l'enchevêtrement des thèmes, de l'absence de chronologie véritable. Nous avons souvent eu l'impression d'être un peu comme dans un jeu de piste où il n'était pas facile de retrouver son chemin. Quel est le sens principal à donner à tout ceci ? Sans doute d'abord ce que la tradition chrétienne en a retenu spontanément. Il y a une parenté évidente entre la vie du prophète Jérémie et celle de Jésus. Tous deux ont connu l'adversité tout au long de leur vie et leur message semble n'avoir pas été entendu, du moins pas de leur vivant. Car la postérité de Jérémie fut grande dans le judaïsme. Il est encore reconnu ensuite comme un immense prophète, semblable à Moïse, dit-on. Et cela parce que ses paroles ont été authentifiées du simple fait qu'elles se sont réalisées exactement comme il l'avait annoncé. Mais à la différence de Jésus, ses rapports avec Dieu sont plus compliqués. On a vu, il accepte mal les souffrances que sa vocation lui impose. Il se plaint amèrement de son sort, il discute avec Dieu, comme par exemple au début du chapitre 12, je vous relis. « Tu es trop juste, Seigneur, pour que je fasse un procès. Pourtant, je parlerai contre toi de jugement. Pourquoi le chemin des méchants est-il prospère ?»
Bonne question.
Donc, nous avons vu que ces nombreux passages de plaintes ont d'ailleurs engendré sa réputation de jérémiade, de faiseur
Jérémie,
de
jérémiade. Pleurnicheur, oui, mais pourtant, on s'est aperçu surtout que Jérémie était un homme hypersensible qui était bouleversé par la méchanceté de son peuple Et autant par les malheurs qui vont en résulter. Je pense au chapitre 4, verset 19, par exemple. Il dit « mes entrailles, au fond de moi, je me tords de douleur. Mon cœur gémit en moi, je ne peux pas me taire. Ô mon âme, tu as entendu l'appel du corps, le cri de guerre. On proclame désastre sur désastre, etc. » Donc nous avons vu aussi à quel point il était choqué par la destruction de la nature, à cause du comportement des hommes. On peut vraiment dire que Jérémie était le premier des écologistes. Pour lui, l'ordre, la paix et l'harmonie de la création vont de pair avec l'obéissance à la volonté de Dieu. On a vu, par exemple, chapitre 5, verset 25, il dit « Ce sont vos fautes qui ont dérangé tout cela, vos péchés qui font obstacle à ces bienfaits », hein, en parlant de l'ordre de la nature. Son rôle de prophète l'oblige à dénoncer tout ça, là aussi en commun avec Jésus, mais aussi pour le zèle pour Dieu. Ça, si je vous fais souvenir du chapitre 7, où Jérémie se dresse devant le temple pour refuser, comme Jésus, une religion de surface et l'hypocrisie des apparences.
C'est bien quand même de relire ces versets hein, du chapitre 7, versets 9 à 11, qui résument la colère de Dieu que Jérémie vient proclamer à la porte du temple. « Quoi, vous voulez voler, tuer, commettre l'adultère, faire de faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés ». Et vous faites toutes ces abominations ? Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon Dieu est invoqué ? Voilà, et nous savons que Jésus hein, a cité ce passage quand il s'est mis en colère contre le temple, on trouve dans Matthieu chapitre 21, versets 12-13. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes et il leur dit « Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, or vous, vous en faites une caverne de brigands. » Donc il est certain qu'il y a une analogie hein, entre Jérémie et Jésus. Ils ont la même exigence hein, de pureté, de sincérité religieuse. Ils n'hésitent pas à dénoncer les pratiques douteuses, l'hypocrisie. Mais là, hein, bon, où leur vie est quand même très différente, c'est que le ministère de Jésus a duré à peine 3 ans, nous dit-on, alors que Jérémie a œuvré quand même pendant au moins 50 ans. Hein. Il a apparemment couvert toute la période de la fin de la royauté en Juda, depuis Josias et l'échec de sa réforme, jusqu'à Sédécias, hein, le roi qui finit en exil à Babylone, quand même.
Oui, et c'est le fond de son ministère, c'est ça, d'aller intervenir auprès des rois, non seulement pour leur rappeler les devoirs de l'alliance avec Dieu, mais aussi pour les guider dans leurs choix politiques. Cette période qui va de moins 650 à moins 587 est incroyablement mouvementée. Alors, il y a des guerres entre la Syrie, Babylone, l'Égypte, et toujours Israël et Juda sont pris entre le marteau et l'enclume, sans cesse envahis par les uns et par les autres. Il faut donc savoir choisir ses bons alliés. Et nous avons découvert que les bons choix politiques n'étaient pas séparés de la volonté de Dieu qui s'exprime par le prophète. Et c'est cela qui nous a beaucoup surpris, car nous sommes habitués aujourd'hui à séparer clairement le politique et le religieux. Or, Jérémie nous a montré que Dieu s'intéresse à la politique et aux conflits humains. Il veut même s'en servir pour conduire les peuples, universellement, hein, le Dieu de l'univers, vers plus d'humanité. Et cela nous a tellement interpellés que nous avons décidé d'en faire le sujet de la suite de nos émissions. Nous allons nous demander maintenant s'il est possible d'avoir une lecture politique de la Bible. Donc, si ce sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission qui inaugure ce nouveau thème, lecture politique de la Bible. Nous vous disons donc au revoir, chers auditeurs, et j'espère à très bientôt.
J'espère aussi, parce que ça peut être très intéressant. Au revoir Catherine, au revoir à tous.